Alors oui, il y a certainement des liens à faire entre les deux présentations de ce matin. Je vais montrer un peu comment on peut lier cette porno primitive à l'histoire de la photographie, l'histoire du cinéma. Donc, ce sera intéressant de partager les questions. Alors, et moi, je présenterai quelques photos ce matin. J'espère que vous avez bien déjeuné. Alors, donc, il y a beaucoup de collections de photographies érotiques de la Belle Époque qui sont inspirées par les pré-raphaélites et l'art nouveau, qui ont été redécouvertes dans la deuxième moitié du 20e siècle et qui ont été republiées dans les dernières années, donc pour célébrer un érotisme coquin, une sexualité romantique avant tout. Je pense entre autres aux photographies d'Audrey, aux illustrations pardon, d'Audrey Breslay et Félicien Rops, Gustav Klimt. Vous voyez un peu le genre, cet érotisme voilé, délicat, charmeur, qui fait rigoler parfois, donc quand on parle plus de ce type d'illustration. Donc, cet érotisme artistique qui découle de la pudibonderie victorienne est rarement choquant, on s'entend. Il met le plus souvent en scène une vision esthétisée des corps. Et donc, les modèles présentés sont beaux, délicats, sensuels et ça mise avant tout sur un dévoilement partiel. Donc, la collection Rothenberg à laquelle je vais m'intéresser aujourd'hui se situe aux antipodes de cet esthétisme coquet et donc érotique avant tout. On est dans le registre de la pornographie, la vraie, mais, et c'est ce qui m'intéressera aujourd'hui dans le document de collection. Donc, je vais m'intéresser à cette collection-là du point de vue de l'archive avant tout. Alors, pour vous présenter un peu la collection Rothenberg, Mark Rothenberg, c'est un collectionneur qui a rassemblé plus de 200 000 photographies et cartes postales érotiques au cours des 30 dernières années. Donc, les photos les plus anciennes de la collection Rothenberg datent des années 1870-1880 et les plus récentes datent de 1940 et 50 environ. Et ce qui se trouve dans cette collection, c'est tout et n'importe quoi qui porte l'étiquette d'érotisme, de pornographie. Donc, oui, de la carte postale, mais aussi calotype, diapositive de lanterne magique, donc dans les plus anciennes, des vues stéréoscopiques, de l'impression sur gélatine argentée, papier abuminé, des photographies refotographiées. Donc, ça montre un peu, on en a parlé avec mon collègue, donc cette idée de marché là, qui est très, très vivant à une certaine époque. Donc, on refotographie, on fait circuler sous la manche. Et donc, on arrive avec une masse énorme, 200 000 images environ. Donc, Rothenberg, c'est un des collectionneurs les plus influents de sa génération. Ses images circulent énormément, sont prêtées dans les musées, dont le Sex Museum à Manhattan. Et il fait beaucoup de reventes en ligne. Donc, c'est vraiment un marché très vivant. En entrevue, Rothenberg va axer beaucoup sur l'idée de cette représentation illicite. Il dit qu'il va jouer au détective, il faut qu'il fouille les bennes à ordures, il rencontre dans les stationnements des vendeurs. Donc, un côté marchandage interdit, donc qui doit se faire dans le plus grand secret. Les gens semblent gênés de vendre leurs possessions ou encore les possessions de parents disparus. Donc, on découvre des collections d'images érotiques dans les sous-sols. Et bon, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est assez ambigu. Donc, en général, on considère que ces collections-là d'images érotiques très imposantes, une valeur au plan sociologique, au plan anthropologique, mais au plan muséal ou archivistique, patrimonial, c'est plus ambigu, c'est plus contesté. Donc, une chose est sûre, c'est que la collection Rothenberg et plein d'autres collections, parce qu'il en existe beaucoup présentement, ça fait naître un réseau de tensions structurantes entre l'archive et l'imaginaire, entre l'objet éphémère, l'objet gênant et la collection, le patrimoine. Donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. La collection Rothenberg s'apparente à un espèce d'inventaire, un grand catalogue des corps. Et donc, inspiré par la nouveauté du médium, dans la deuxième moitié du 19e siècle, pardon, les premiers auteurs de photographie pornographique semblent avoir été déterminés à saisir toutes les combinaisons possibles d'actes sexuels. Donc, dans le catalogue Rutenberg, on trouve à peu près toutes les mises en scène possibles, de ménages à trois, à quatre, des collages d'orgies, des couples interraciaux, des images homosexuelles, hétérosexuelles, flagellation, mise en scène de torture. Donc, un espèce de grand catalogue des corps présenté le plus souvent de manière frontale, donc sans mise en scène sophistiquée. Et donc, on a affaire à une pornographie qui est à la fois clinique, donc dans cet aspect frontal, et organique. Donc, parfois dérangeante pour le spectateur moderne. Et c'est un imaginaire, en fait, qui me rappelle une citation de Philippe Grandrieu qui est assez longue, mais je me permets de vous la lire ce matin. Donc, c'était dans les Cahiers du cinéma en 2000. Grandrieu disait, il écrivait « À l'origine, l'analyse du mouvement, chronophotographie, cheval, oiseau, homme, femme, ça court, ça saute, ça vole et ça recommence. Et tout de suite, l'usage pornographique. Car le cinéma, c'est l'industrie des corps. » Nos arrière-grand-mères sucent et se font mettre dans les cuisines. Odeur de soupe et de foutre, c'est l'odeur du siècle des locomotives et de l'inconscient. Les hommes sont musclés et moustachus, ils posent pour nos grands peintres, bandes secs face à l'objectif. Assemblage des corps, mise en scène, litanie des séquences, de toute évidence, le scénario du cinéma est d'emblée sadien. Et pendant ce temps, Degas brosse les corps, femme au dos, femme au bain, dos courbé, fesses charnues dans l'ombre noire de l'encre grasse, corps venu sous la main, corps avachi des putains, cuisses ouvertes, ventre bedonnant, corps épuisé des maisons closes, des chambres obscures. Donc, ce qu'oppose Philippe Grandrieu dans sa citation, en fait, c'est justement cet érotisme charmeur des nus d'Edgar Degas et la vue frontale, sans équivoque, des premiers stag films du 19e siècle, parce que Grandrieu parle du cinéma dans son texte. Et cette vision odorante des corps, c'est la mise en scène très mécanique du sexe qui sert en quelque sorte le médium, donc qui parle de l'histoire, la photographie, l'histoire du cinéma. Selon moi, on la retrouve dans toute l'iconographie pornographique du début du 20e siècle. Donc, c'est cette image qui parle de, donc pas juste de sexualité, mais d'histoire du médium, je la trouve intéressante. Donc, pour revenir à la collection Rutenberg, on connaît, c'est des images qui sont mixtes et on connaît très peu de choses, en fait. On connaît l'identité d'aucun modèle, évidemment, là, qui ont posé pour la caméra. On sait par contre, par les recherches qui ont été faites, qu'il y a beaucoup de prostituées qui posaient pour ces images, pour ces clichés. Et qu'il y aurait une minorité de photographies qui mettraient en scène des patients d'asile psychiatrique aussi, donc qui avaient peu conscience de ce qui se passait. Donc, pour des raisons aussi évidentes, le nom des photographes qui ont capté les images n'a pas survécu au temps. Ces photographies étaient souvent prises dans des réseaux secondaires, donc elles dépendaient avant tout d'un réseau de diffusion, de circulation clandestin, et était destiné avant tout à une consommation immédiate. Donc, les auteurs revendiquaient peu la paternité des œuvres. C'était avant tout un marché pour vendre. Donc, face à cet anonymat fondamental, tant du côté des sujets que des auteurs de photographies pornographiques, on comprend que la collection Rutenberg, avec à peu près 200 000 images, c'est une masse imposante, vertigineuse, mais qui offre peu de caractéristiques pour l'analyste. Juste, en fait, dater ces images-là devient très complexe parce qu'on a peu de costumes, donc on a peu de critères pour dater les images. Donc, ces milliers d'images, ils vont encrypter une information qui est considérable, mais qui est labile, qui en dit peu. La question, par contre, pour l'historien de l'art, parce que je me situe du côté de l'analyse, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces photos? De quel côté est-ce qu'on peut les prendre? de quel côté on peut les analyser. Donc, personnellement, dans mes recherches, je m'intéresse d'abord aux moyens face à l'archive, aux archives anonymes, aux archives trouvées. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et je suis également fascinée par les changements de statut, le moment où l'archive clandestine s'ouvre à l'analyse esthétique, par exemple. Donc aujourd'hui, je vais insister sur la tension qui oppose deux régimes, donc la pornographie, la porno privée, semi-secrète, non officielle, moins organisée, et l'archive, qui est un régime public, bureaucratique, approuvé par l'État ou par l'institution. Donc une opposition qui est parfaitement résumée par Tim Dean dans son essai Porn Archive qui a été publié récemment quand il écrit « If porn is juicy, then the archive is dry as dust ». Donc c'est vraiment cette opposition-là qui m'intéresse entre la porno et l'archive. Donc d'abord la trouvaille anonyme. Dans un essai qu'elle a publié qui s'appelle « Other Pictures, Anonymous Photographs from the Thomas Walter Collection », Maya Feynman, qui est une conservatrice au Met, avait analysé en fait la mise en scène, la mise en exposition d'images amateurs, donc des snapshots, donc des images anonymes qui ont été... en fait, qui vont être mises en musée, qui vont être mises en exposition, des images qui ont été prises par le commun des mortels et donc qui vont changer de statut esthétique, qui vont se retrouver soudainement en musée et dont, un peu comme la collection Rothenberg, on connaît très, très peu d'informations. Et bon, elle se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans ce moment, ce changement de statut. Donc, pour Feynman, il n'y a pas de doute sur la valeur muséale. La question n'est pas là. On a dépassé ça. Un corpus anonyme, amateur, certainement qui a une valeur muséale. Et en fait, Feynman va dire que la clé de lecture se trouve dans les théories de la survivance, selon elle, dans les généalogies de ressemblance. Elle va parler de chefs-d'œuvre accidentels. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Ces images-là qui sont anonymes, intrigantes, inexpliquées, dont on connaît très peu d'informations, oui, ça peut devenir des chefs-d'œuvre accidentels. Donc, selon elle, les grands maîtres de la photographie vont hanter les photos. Elle parle de meutes de fantômes jaloux. Et Feynman va écrire « Nous sentons le lyrisme austère de Walker Evans dans une vue sans prétention du coin d'une pièce, avec plusieurs portraits en studio épinglés au mur. L'image d'une showgirl mélancolique coiffée de plumes et à la jupe renversée aurait bien pu être prise par Brassailles. Un garçon dans un champ courant pour attraper une balle de baseball à toute la résolution d'un quartier bresson. Ils sont Eugène Adjaye, Alexandre Rodchenko, Man Ray, Robert Frank, Eugène Mithiard, Diane Arbus, Gérard Richter. » Donc, tous anonymes, tous manqués. Donc, cette idée du chef-d'œuvre manqué, finalement, qui résonne, qui circule dans ces images amateurs, pour moi, ça fait du sens. On peut les relier avec les images porno. Donc, la posture déployée par Feynman, elle donne une pleine autonomie de lecture à des documents anonymes. Elle se base essentiellement sur l'apparition de liens inexpliqués, voire magiques, entre un corpus vernaculaire et les grands maîtres de la photographie. Donc, toujours sur ce changement de régime, Douglas Nickel va prétendre, lui, que l'anonymat d'une image peut faire figure de révélateur. Donc, pour l'image trouvée, lui s'intéresse avant tout à des images trouvées, et cet anonymat révélateur-là donne des nouvelles pistes de lecture. Lui, il écrit « Quand l'instantané devient anonyme, quand la généalogie familiale s'éteint, que Nickel s'intéresse à des photos de famille. Donc, pour lui, quand l'album de photos de famille aboutit au marché aux puces, à la foire, à la société historique, et que cette image est coupée de sa fonction originale, c'est aussi à ce moment-là, le moment où l'image devient vraiment anonyme, c'est à ce moment qu'elle s'ouvre, qu'elle s'offre à un nouvel éventail de lectures beaucoup plus large que celle qui lui était associée au départ. Donc, cet anonymat fondamental, très intéressant selon moi. Donc, l'image anonyme qui est débarrassée de ses présupposés est peut-être le matériel idéal de la lecture sauvage, la lecture sans culture à laquelle aspirait Barthes, donc dans La Chambre claire. Donc, privé d'informations supplémentaires, l'analyse esthétique se frappe, s'accroche au punctum de l'image, dans le cas présent, une paire de bas, par exemple, au détail qui accroche, ça peut être un décor, un costume, une coiffure, et dans le fond, l'anonymat de l'image ouvre à cette lecture-là. Les images qui peuplent la collection Rothenberg sont peuplées d'anonymes et de figures fantomatiques. Donc, il y a beaucoup de regards caméra dans ces images de cette porno primitive. Et ces regards dérangeants vont produire selon moi un décentrement de l'image. Là, ce sont beaucoup de figures floues, des images excentrées, et on peut dire que ces fantômes qui peuplent la collection vont subvertir la nature première de la photographie pour l'observateur contemporain, évidemment. Des images qui étaient avant tout utilitaires, fonctionnelles, qui visaient avant tout à faire jouir le regardeur, donc à l'origine. Aujourd'hui, il semble y avoir beaucoup plus dans ces images qu'une simple représentation érotique, pornographique. Loin d'être un obstacle à la réflexion et à l'analyse, le caractère anonyme et décomposé des archives qui résiste en fait au classement traditionnel ouvrirait à une nouvelle lecture. Cette lecture du document permet de faire émerger une discursivité photographique, donc comment traiter des photos en énoncé, qu'est-ce qu'une image peut dire au-delà où il y a un discours visuel, mais aussi quel genre de discours sur la photographie, quel discours photographique s'y énonce. En d'autres mots, ce que peut être dit de ces images, même si elles ont été produites dans un régime secret, marginal, anonyme, est constamment réactualisé parce qu'elles sont habitées par les mouvements de l'histoire, donc l'histoire de la photographie, l'histoire du cinéma, mais aussi ces images-là semblent être habitées par des mouvements imaginaires, donc une histoire plus mineure, plus artistique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en dire aujourd'hui? Alors, sur les restes. Donc, j'ai insisté jusqu'à maintenant sur le caractère unique de l'archive pornographique anonyme. Ces images, elles forment essentiellement ce que Morane Montazami nomme les restes. Les restes, c'est un corpus mal aimé, un corpus difficile à définir, qui est vertigineux dans son nombre, donc qui est un ensemble d'éléments hétérogènes qu'il compose. Selon lui, on peut parler de restes. Les restes, les fragments, les débris, c'est des questions qui sont très en vogue dans la pensée contemporaine, dans l'histoire de l'art. Je vais me garder de faire un long détour là-dessus, mais je voulais simplement insister aujourd'hui sur ce concept de reste qui, selon moi, problématise bien le corpus difficile que peut représenter un corpus de 200 000 images. Donc, qu'est-ce qu'on en fait pour c'est un corpus qui est difficile autant pour les chercheurs que pour les institutions qui le supportent. Donc, Montazami, lui, institue le concept de reste pour parler d'une boîte de photographies de famille qu'il va acheter au marché aux puces parisien. Donc, une boîte de photos non datée, anonyme complètement. Et il va tirer de cette boîte-là une lecture très sensible à partir d'une théorie du regard. Donc, et selon lui, ce sont des images insignifiantes. Donc, pas insignifiantes pour l'analyse, évidemment. On peut en tirer ce qu'on veut de ces images, mais insignifiantes pour la pratique. Parce que des photos de famille, bon, la pratique photographique en déborde, littéralement. Et ces images amateurs sont essentiellement fonctionnelles. Donc, selon lui, ce sont des images insignifiantes parce que c'est difficile d'en trouver un sens, mais certainement pas un sens pratique, mais certainement pas pour l'analyse esthétique. Donc, je vois beaucoup de rapprochements entre cette fonctionnalité évidente de la photo de famille et de la photo pornographique. Toutes deux ne sont pas vouées à l'exposition et même, en fait, à la conservation. C'est peut-être plus clair pour la photo pornographique, donc à cause de son caractère illicite, il y a beaucoup plus de photos pornographiques qui ont été jetées, détruites que conservées, évidemment. Mais même pour la photo de famille, les questions se posent rapidement après deux ou trois générations et vont se poser de plus en plus avec la multiplication des images. Qu'est-ce qu'on en fait de ces photos-là? Qu'est-ce que ça veut dire une fois après deux ou trois générations, quand tout le monde est mort? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, sur les archives gênantes, Tim Dean, dans Porn Archive, va poser quant à lui le concept de archival dirt, donc qui fait référence à la fois à la poussière, dirt, qui s'accumule donc de façon littérale là, sur le document d'archives. Et archival dirt, c'est aussi plus largement le caractère obscène, crasseux, donc il fait référence au smut, Tim Dean, du document dans l'histoire. Donc, une archive qui est gênante ou que les gens ne savent pas trop quoi en faire. Donc, l'archive pornographique, c'est souvent, donc c'est une archive selon lui qui est non neutre, une archive qui est considérée comme sale, gênante, impropre à la collection, qui est souvent négligée par les institutions qui ne savent pas trop quoi en faire, où les mettre, comment les classer, ou reléguer à des catalogues clandestins dans les bibliothèques, par exemple, plus ou moins disponibles pour la recherche. Dame va aussi utiliser le terme « counter-archive », donc pour parler de cette espèce de zone grise des archives illicites dans laquelle se trouve absolument l'archive pornographique. Et donc, on voit rapidement se tracer une ligne entre l'archive, l'image d'archive et la destruction donc de ces images gênantes. Par sa nature subversive, le document pornographique est appelé à être détruit dans l'histoire et est rarement compris comme un savoir clair, officiel, qui serait utilisé, par exemple, pour mieux comprendre l'histoire des mœurs, l'histoire de la sexualité, par exemple. Donc, quel type de savoir la porno, l'archive pornographique donne-t-elle accès? C'est une très bonne question. La porno, par sa définition, elle est toujours illicite. Et c'est pour ça, en fait, que l'archive pornographique pose un statut, un problème légal, en fait. Parce que les archives, dans la mesure où elles enregistrent un passé, des pratiques, peuvent offrir des preuves potentiellement légales contre les propriétaires. Donc, c'est pas pour rien que les gens sont souvent gênés de vendre des collections privées. C'est que certaines images considérées comme illégales dans leur représentation, des archives de bestialité, par exemple, peuvent pas être montrées, peuvent pas être mises en images, par exemple, dans des collections des médiographies, là, des monographies, pardon. Ainsi, les archives pornographiques sont bien plus souvent détruites que préservées et considérées comme dangereuses, puisqu'elles offrent des mises en scène de pratiques intimes qui, s'il n'en était du zèle de certains individus, ne figuraient pas aujourd'hui dans la sphère publique. Donc, si l'intérêt pour l'archive au sens large dans les sciences humaines aujourd'hui, c'est extrêmement populaire, ça répond à une préoccupation qui est maintenant répandue pour la mémoire culturelle d'une société. On redécouvre constamment des archives en photo et au cinéma. Le rapport qui s'établit entre l'archive et la pornographie me semble un peu plus complexe. Donc, Linda Williams, très connue dans les Porn Studies, soutient, elle, qu'une archive pornographique ne peut pas être comparée à une autre archive, à une quelconque autre archive. L'archive pornographique n'a pas été acquise en vue de sa valeur dans l'histoire du cinéma en général ou sa valeur dans l'histoire de la photographie, mais le plus souvent dans un désir de collection, des collections privées, des pratiques sexuelles. Donc, dans cet esprit, ça relève souvent du miracle qu'une collection d'images des années 1870 illicites se soit rendue jusqu'à nous, observateurs contemporains. Donc, en tant que phénomène éphémère, les conditions qui facilitent l'archivage des images pornographiques restent donc contingentes. Souvent, ça relève d'un seul individu. Et donc, on peut dire qu'il y a une espèce de petit miracle de voir ces images devant nous. Donc, j'ai tenté brièvement de proposer deux voies par lesquelles l'image porno peut changer de statut et s'offrir à l'analyse esthétique. Évidemment, il y en a d'autres. D'un côté, la voie de l'anonymat, des images trouvées qui permettent de congédier le savoir, de permettre cette lecture sauvage comme l'aspirait Barthes. Et donc, devant des milliers d'images étranges pour l'observateur contemporain, ou l'image troublante, en fait, C'est souvent à des minces détails qui accrochent l'œil, comme je parlais des plantes, des décors, donc une coiffure, un accessoire. Et cet anonymat permet, selon moi, de débarrasser l'image des présupposés et peut faire office de révélateur. La deuxième voie d'analyse des photographies se trouve finalement dans la tension qui oppose l'archive et l'imagerie pornographique, donc plus précisément cette destruction à laquelle elle semblait destinée, l'image pornographique, la conservation et la mise en valeur des fonds pornographiques, comme la collection Rothenberg par exemple, donne accès à une histoire renouvelée de la sexualité, qui n'est pas sans provoquer certains débats au sein des institutions. Donc, qu'est-ce qu'on garde? Comment on met en valeur ces images? Et ces images orphelines, éphémères, donc certains vont parler orphelines parmi les orphelines, ce sont des restes, donc longtemps négligés, qui soulèvent donc d'importants questionnements aujourd'hui sur la manière d'envisager l'histoire des images, pardon, et plus largement la place de certaines images dans l'histoire. Donc, selon Tim Dean, la relecture de l'iconographie pornographique permet de contester l'histoire officielle en mettant à jour une espèce de résistance politique dans cette imagerie érotique. Et selon lui, toute l'idée de Counter Archive, c'est un projet interdisciplinaire qui permet l'identification, la collection, la préservation de ce qui, autrement, ne serait jamais rendu visible et qui serait condamné à l'obscurité, à l'éphémère, à l'itinérance et à la précarité. Donc, des images qu'on permet aujourd'hui de voir, de mettre à jour. Voilà, c'est un long travail interdisciplinaire, mais c'est vraiment un autre savoir qui peut faire office de résistance politique. Merci.
Merci infiniment, Marie.